Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Radio sans Dieu.
Parce qu'une radio, bon, ben, oui, nous sommes radio aujourd'hui, bien que tous malades. Et c'est Jeudi Noir, donc pour son édition habituelle, un des deux jeudis du mois. Et puis voilà, enfin. Ce soir, on va vous parler d'un livre de Franck Poupeau, donc un sociologue qu'on pourrait dire bourdieusien. Je le pense sans y voir de connotation péjorative ou autre, hein, c'est donc un adepte, un disciple de Bourdieu. Et c'est un livre qui a été publié il y a déjà quelques temps aux éditions Raison d'Agir et qui s'intitule Les Mésaventures de la Critique. Alors bon, bien sûr, ça fait pas l'actualité, mais bon, on ne fait pas toujours l'actualité de toute façon. Et Benjamin Mathias avait proposé d'en parler. Donc on l'a pris au mot et on lui a dit vas-y, fais-toi plaisir, parle-nous de Franck Poupeau et des Mésaventures de la Critique, édité aux éditions Raison d'Agir.
Alors, d'abord deux mots.
Une seconde, oui. Non, et pour la musique, vous venez d'entendre Pop Will Eat Itself, donc la pop va se manger elle-même. C'est un album qui s'intitule At Weird's Bar and Grill, donc dans le bar étrange, etc. Et c'est le morceau Wise Up Sucker. Voilà, excuse-moi Jean-Mathias pour cette interruption.
Je t'en prie. Non, alors déjà, je vais me permettre d'entrer, de marquer un certain nombre de points de désaccord avec ce que tu as dit, là, en deux phrases.
Pardon. Ah oui, vas-y Jean-Mathias, je t'écoute avec attention et bonhomie.
Alors, c'est un livre qui, effectivement, a été édité chez aux éditions Raison d'Agir en 2012, en septembre 2012. Donc voilà, il y a un an et demi, voilà, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Et par ses thèmes et par son propos.
Oui, c'est sûr, ce n'est pas un article de 1981.
Non, et par ses thèmes et ses propos, il est, à mon avis, plutôt en pleine actualité, en réalité, hein, contrairement à ce que tu suggérais de manière un peu perfide. Alors, deux mots aussi sur l'émission et puis sur le projet d'émission. En fait, on a envoyé un mot à Poupeau pour. Parce qu'on aurait aimé la voir ici en studio, là, pour qu'il vienne nous parler de ça. Donc, bah, pour l'instant, ça ne peut pas se faire. On espère peut-être que pouvoir l'avoir une prochaine fois, voilà, pour parler soit de ce livre, soit de thèmes qu'il aborde dans ce livre. Parce que, alors, le bouquin s'appelle Les Mésaventures de la Critique. Et c'est une espèce de balayage à la fois très ample et en même temps un peu rapide aussi, des différentes tentatives finalement pour refonder un projet de gauche radicale depuis en gros les 15 dernières années, on va dire, hein, c'est un peu ça. Alors ce que Poupeau essaie de faire, c'est de montrer pourquoi d'après lui la plupart des tentatives qui ont vu le jour ces 15 dernières années, que ce soit du côté du mouvement altermondialiste ou de certaines utopies communautaires un petit peu radicales et alternatives ici ou là en Europe ou aux États-Unis, ou bien du côté de politiques plus institutionnelles comme celles qui ont été mises en place par Evo Morales et le MAS en Bolivie depuis une petite dizaine d'années. Ou bien, alors c'est pour vous donner une idée un petit peu du spectre qui est balayé par le bouquin de Poupeau, ou bien certains développements théoriques, philosophiques en fait, hein, sur des philosophies de l'émancipation développées par des gens qui sont pas inintéressants par ailleurs, hein, dont on a déjà parlé ici, comme Jacques Rancière par exemple. Donc il essaie de montrer pourquoi, d'après lui, toutes ces tentatives qui sont voilà, à la fois théoriques, pratiques, institutionnelles, alternatives, etc., tentatives pour essayer de refonder un projet de gauche radical, pourquoi elles échouent d'après lui et sur quoi elles achoppent. Et son idée consiste à dire que, au fond, ce sont des théories qui. Enfin, des théories, des pratiques, en tout cas des projets, qui finalement n'ont pas étudié de manière suffisamment précise les formes de domination contemporaine. Et qui tiennent à l'écart de manière abusive les sciences sociales et en particulier la sociologie de la domination telle qu'elle a été par exemple voilà pratiquée par Bourdieu, hein, dont il se réclame ça effectivement très explicitement. Et d'après lui, et ben voilà, il y a une espèce de méfiance à l'égard des sciences sociales qui pour le coup est suspecte selon lui.
Et s'il reconnaît que les sciences sociales sont aussi peuvent être aussi bien sûr, un instrument du bien un instrument sûr. Des pouvoirs en place.
Bien sûr, il y a tout un chapitre notamment sur la
sociologie d'État,
la sociologie d'État et la manière dont le discours sociologique est convoqué, par exemple à l'occasion des émeutes en France de 2005, et qui est effectivement pas tendre pour la sociologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être la meilleure manière de présenter le livre, j'avais envie de lire un passage qui est celui voilà vraiment la toute première page du livre, et puis un extrait qui se trouve à la fin, la conclusion. Donc comme ça vous donnera un petit effet de boucle, mais pour vous donner un petit peu une idée du projet, hein, de ce livre qui est très stimulant, je trouve, très stimulant. Bon voilà, donc si on peut vous faire partager ça ce soir, ça sera déjà pas mal. Alors je vous lis le départ, donc le premier, le première page de l'introduction. Depuis la crise, des régimes politiques et des théories sociales se réclamant du marxisme, la gauche se perd dans des tentatives de refondation impossibles. Il y a eu en France, à partir des années 70, ce qu'on appelait la deuxième gauche et le mirage de la social-démocratie à l'allemande, parfois décliné en termes de troisième voie blériste. Ces courants autoproclamés modernistes, adossés aux thématiques de la citoyenneté, des droits et de l'humanitaire, se sont vus remis en cause à partir des années 90 par une gauche radicale, entre guillemets, essentiellement composée de mouvements altermondialistes, dont la critique semblait porteuse d'une alternative au système capitaliste. Rappel du slogan « Un autre monde est possible ».
Ça fait 2000 ans qu'on nous les vend, les autres mondes.
Oui. Cette critique s'est cependant heurtée à la difficulté de mobiliser au-delà de la seule défense des services publics, d'une part, et des luttes identitaires, d'autre part, à l'exception peut-être des mobilisations contre le CPE en France, en 2006. Les mouvements sociaux qui ont émergé après les grèves de décembre 1995 constituent autant de déroutes politiques qui ont non seulement plié face aux intransigeances gouvernementales, mais aussi face au manque de soutien populaire. Comme si, malgré tous les efforts déployés, la refondation échouait sur la réactivité de révoltes collectives sans lendemain, par manque d'espoir et de relais institutionnels, face à une répression policière et intellectuelle aux effets démobilisateurs et à un travail de dépolitisation sans précédent. L'essoufflement des différentes grèves contre les supposées réformes de retraite et de la sécurité sociale tout au long des années 2000 en France, ou encore la difficulté de mobilisation comme celle des indignés ou d'Occupy Wall Street, a suscité autre chose qu'un intérêt médiatique bien circonscrit au début des années 2010, en dépit de l'importance des débats qu'elle a suscité en matière d'inégalité, illustre bien ce sentiment de rage impuissante à l'égard du système économique actuel et des inévitables, entre guillemets, programmes d'austérité qui l'accompagnent. Donc ça, c'est le constat de départ qui me paraît quand même assez difficile à éviter, hein, si on regarde les choses de manière honnête. Et alors, voilà, tout le livre va balayer un certain nombre comme ça de points pour essayer d'éclaircir, hein, ce constat un petit peu désespérant, à première vue. Et je vous donne quand même la clé qui sert de fil rouge finalement à son propos. Donc à la fin, vous trouvez ça à page 137, hein, dans la conclusion du livre. Les quelques mésaventures évoquées successivement dans ce livre. Il reprend le plan qu'il adopte, donc ça vous donnera une idée de ce qui est dit. Donc, à savoir les mésaventures, à savoir le reflux de l'altermondialisme, les impasses des utopies communautaires, les ambivalences du postcolonialisme au pouvoir, la subordination des analyses sociologiques aux logiques médiatiques, ou encore le rejet des sciences sociales par différents courants de la critique de gauche, renvoie finalement à une même idéalisation de la politique. Deux points. La parole des dominés exprimerait seule la vérité de la domination. Alors c'est formulé de manière un petit peu théorique, mais il me semble que c'est vraiment ça le propos de Poupeau dans ce livre, c'est-à-dire que d'après lui, tous ces mouvements qu'on a connus au cours de finalement de ces 20 dernières années, hein, cette espèce de cycle de lutte qui part avec effectivement Seattle, puis Gênes, puis un certain nombre de développements, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, des communautés radicales, souvent d'inspiration anarchiste d'ailleurs. Les mouvements en France de 2005 avec les émeutes, les émeutes dites dans les banlieues, comme on a pu le dire, mais aussi, et c'est un des intérêts de ce livre, hein, son éclairage international, en particulier la connaissance que Poupeau a de la Bolivie, où il a passé un certain nombre d'années, hein, faut le savoir, donc où il voit une sorte de laboratoire, là pour le coup, de projet de gauche radicale institutionnelle, puisque Morales est au pouvoir, il est président, il modifie la constitution, il entame des réformes considérables, nationalisation, certaines ressources, des services publics, réformes agraires très importantes, une nouvelle constitution avec un projet d'État post-national. La Bolivie sert un petit peu, si vous voulez, de vitrine et de phare, hein, un petit peu au niveau de la gauche radicale mondiale, hein, pas simplement en France, mais grand ami de Jean-Luc Mélenchon, grand ami de José Bové, entre autres, hein, mais il a des amis un peu partout, et a raison, enfin, il ne s'agit pas simplement de dire que c'est forcément peanuts, mais tous ces développements-là, encore une fois, tous ces projets-là, butent à un moment donné sur une espèce d'absence finalement de connaissances, des mécanismes de domination sociaux, hein, qui permettent finalement voilà, au libéralisme et au capitalisme de manière générale de prospérer, de se maintenir, quelles que soient les tentatives d'opposition qui lui sont faites depuis une vingtaine d'années. D'où effectivement après ce constat un peu désespérant de déroute des différents mouvements sociaux, aussi puissants ont-ils pu être. Enfin je veux dire, voilà, on a un certain nombre à, quand même à y avoir contribué, que ce soit 2003, 2005, 2006, 2010, on remet ça pour ce qui est de la France. Hein. Bon, à part effectivement une espèce de un retrait voilà, sur le CPE, que dalle quoi, que dalle. C'est-à-dire que tout passe avec des mouvements de masse qui sont historiques à chaque fois, hein, ou régulièrement historiques, notamment sur la question des retraites. Puisqu'on a des manifestations qui dépassent numériquement, ça a été répété, pas souvent, mais ça a été répété quand même à plusieurs reprises. C'est des manifestations qui dépassent celles en nombre de manifestants, celles qui ont eu lieu en 36 sous le Front Populaire. Hein? Bon, et puis résultat, que dalle.
Voilà. En termes de grève, est-ce qu'on avait dépassé 68?
En termes de grève, certainement pas. En termes de grève, voilà. Certainement pas. Mais en termes de manifestation, en termes de mobilisation, si tu veux, voilà, y compris de soutien, voilà, dans l'opinion, on a quand même des mécanismes apparemment étonnants et paradoxaux. Voilà.
Oui, mais lui, ce qu'il soulignait là dans des passages que je citais, c'était le présupposé qu'il impute, enfin qu'il croit déceler, enfin qu'il pense déceler chez pas mal de mouvements émancipateurs. Libertaire, communiste ou autre, qui était le présupposé d'une autonomie idéologique du peuple. Et là, les exemples que tu donnes sont un petit peu à contre-courant de ce que lui dit, parce que lui, il semble dire que, d'une certaine manière, un des gros problèmes de la gauche, entre guillemets, mettons, pour regrouper un petit peu tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, finalement, ce but contre quoi ? But contre le fait que ses théories, sa vision du monde social, sont rarement du cercle des militants, des intellectuels, en gros des professionnels de la contestation, et que justement ils vont se heurter à un peuple qui est beaucoup plus à droite qu'eux, à des tas de niveaux, qui est beaucoup plus incertain sur ses positions politiques. Et lui, c'est un des trucs qu'il visait, c'est-à-dire le fait que finalement l'éducation populaire s'est cassée la gueule, qu'il n'y a plus vraiment de on se retrouve avec face à un peuple entre guillemets, aussi parce que c'est une notion vachement dure à définir et à cerner, sous laquelle on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, mais que en gros le peuple manque.
Le peuple manque, quoi, voilà. Sur la fameuse formule. Alors je suis tenté de te répondre oui et non en même temps, c'est-à-dire que c'est une des difficultés quand même du bouquin, ça fait aussi son intérêt, c'est que moi il me semble qu'il s'attaque à des sujets relativement divergents et différents entre eux, hein. Parce que ce que tu dis là sur effectivement le caractère un petit peu élitiste, hein, d'une espèce de gauche radicale qui partirait, voilà, qui insisterait beaucoup sur le caractère exceptionnel des mouvements égalitaires, sur le caractère exceptionnel du militant politique, le caractère extraordinaire du leader charismatique de telle ou telle communauté ou de tel ou tel mouvement, ça, ce sont effectivement des choses qui pour le coup marque une espèce de décalage, une espèce de repli sur soi, en quelque sorte, hein, de certains mouvements de gauche radicale ou d'alternative radicale. Il fait notamment référence, ça c'est dans le chapitre 2, hein, chapitre 3, qui a intitulé « Les communautés utopiques contre le commun sur quelques tentatives pour sortir du capitalisme ». Il s'appuie et critique, en fait il se paye quand même... de manière assez drôle, là, faut le dire, un livre qui s'appelle Les Sentiers de l'Utopie, écrit par deux activistes de l'altermondialisme, Isabelle Frémaux et John Jordan, qui sont effectivement des figures, hein, de l'altermondialisme, alors, qui sont pas des cons, enfin non plus, qui sont pas que des cons, hein, faut pas caricaturer ça, mais pour avoir parcouru, hein, un petit peu ce bouquin, Les Sentiers de l'Utopie, c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu, c'est assez désespérant, quoi. Alors c'est-à-dire que c'est un bouquin qui passe en revue un certain nombre comme ça de lieux ultra alternatifs, ultra radicaux. Alors vous avez un village punk dans les Cévennes, à la Vieille Valette, vous avez une usine de médicaments occupée en Serbie par des squatteurs très très radicaux, et comme ça un certain nombre de lieux, si vous voulez, qui sont à chaque fois mis un peu en avant comme
l'usine Poupou la met de côté parce que elle est un peu
sale, un peu vulgaire, hein.
C'est pas tout à fait le même truc, quoi.
C'est pas tout à fait le même truc, mais
que les autres communautés que les deux ont visité,
il faut une caution un peu ouvrière maniériste un peu populaire au bouquin de Frémaux et Jordan, Les Sentiers de l'Utopie, et ça sert, l'usine sert un petit peu à ça. Mais il dit qu'à chaque fois, on a un peu le même schéma, c'est-à-dire une espèce de... Il y a toujours une espèce de... un entremetteur, c'est-à-dire un contact dans la communauté en question, qui va justement les accueillir. Eux, en fait, ils se baladent avec leur camion un peu partout en Europe pour aller justement essayer d'explorer ces tentatives communautaires alternatives. Et à chaque fois, il tombe donc sur un intermédiaire qui est toujours quelqu'un, voilà, avec un charisme extraordinaire et tout ça. Et ce que dit Poupeau, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir suspect, quoi. C'est-à-dire que si ce sont des projets qui sont réservés uniquement à des gens absolument extraordinaires, en rupture totale, effectivement, avec la marchandise, avec la consommation de masse, avec le confort matériel le plus élémentaire.
Malgré tout, il pose une bonne question. Il dit déjà comment ils vivent. Première question.
Si tu vas au-delà en admettant effectivement qu'ils vivent de peu et qu'ils détournent par certains circuits, voilà. Ouais. Pas forcément toujours licite, etc. Bon. Mais même, si tu veux, il y a la question de savoir à un moment donné si on a là réellement des formes de vie et des projets de vie qui sont susceptibles de représenter des alternatives collectives réelles, à grande échelle. Parce que c'est une...
Parfois, à un moment, il dit un truc assez dur. Il dit, à la rigueur, si les pauvres s'autogèrent, ça pourrait tout à fait arranger le capitalisme. Moi, à mon avis, là, il ne va pas assez dans l'analyse, parce qu'un des soucis, c'est que si tous les pauvres se géraient, il n'y aurait plus de bras. Le salariat, c'est quand même une des conditions indispensables du capitalisme.
Oui, je ne sais pas s'il va jusque-là, mais disons que ce qui est sûr, là où tu peux difficilement lui donner tort, c'est que des communautés où tu as effectivement un certain nombre comme ça de minorités un peu radicales qui choisissent une forme de suicide social en allant se planquer au fin fond de la garrigue Sévenol, ou tu vois, je le dis sans aucune animosité, c'est des gens qui voilà, il y a plein de choses extrêmement sympathiques dans ces projets-là, et pas que caricatural, Poupeau le dit pas d'ailleurs. C'est plus sur la portée politique du truc, et cette espèce, sur l'aveuglement politique qu'il peut y avoir dans ce type de démarche-là, où on se pense comme une espèce d'avant-garde éclairée, enfin tellement avant-gardiste que personne ne suivra jamais, parce qu'en réalité, tous les codes sont mis en place pour que personne ne suive.
Marx aurait parlé d'une Robinsonade, même.
Alors, d'une Robinsonade, là, c'est une Robinsonade pratique. Là, en l'occurrence, t'as des gens qui, effectivement, passent le pas, ils vont, etc. En tant que choix individuel, c'est parfaitement respectable. Le problème, c'est la question de la portée politique de ce truc-là. Alors là, effectivement, tu as cet aspect qui est mis en avant par lui, le côté le peuple manque, effectivement. Parce que, tout simplement, c'est quelque chose c'est une question qui n'est même pas posée. Ce travail de savoir si, effectivement, on construit une alternative collective susceptible d'être élargie, d'être opposée au capitalisme vraiment, pour de vrai, etc. Tout ça sont des questions qui en réalité ne sont pas posées. On part sur un truc de rupture communautaire qui en tant que tel, voilà, en tant que choix individuel est parfaitement respectable, mais dont la portée politique est finalement très très limitée et qui menace rien du tout. De ce point de vue-là, effectivement, il y a une critique sur une certaine forme d'élitisme et de repli sur soi, de ces mouvements-là.
Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils ont repris certains éléments du mouvement libertaire, en se séparant aussi de tout ce qu'il y avait justement d'action politique directe.
Il est clairement plus du côté ce qui garde de la tradition libertaire, c'est clairement plus du côté de l'anarcho-syndicalisme que du côté des modes de vie libre ou des communautés de vie libre de la fin du 19e, ça c'est clair. Là-dessus, bon, on peut difficilement lui donner tort aussi, mais bon, c'est portée politique du truc et aveuglement surtout, c'est ce qui l'énerve en fait, c'est ça, c'est l'espèce d'aveuglement qui peut être diffusé, colporté par des participants à ce type de projet-là, qui se pensent comme une espèce d'avant-garde éclairée sans avoir commencé le début du quart d'une réflexion sur l'élargissement ou sur la généralisation collective de cette expérience-là.
Ou sur les conditions de possibilité de leur entreprise.
Conditions
de possibilité sociologique.
Ce qui va avec, évidemment.
C'est-à-dire avec une réflexion critique sur qu'est-ce qui nous a permis, nous, d'en arriver là.
Bien sûr.
Et au lieu peut-être de déserter et de se dire, comme le déclare un des gars, en gros, viens qui veut. Nous on s'en fout, nous on est là, et puis viens qui veut. Peut-être se demander pourquoi est-ce que justement ils sont si peu et si isolés, et pourquoi est-ce que finalement ils sont pas rejoints par beaucoup d'autres gens qui auraient envie de tenter de mener une autre vie. Alors là, on va peut-être vous passer un petit morceau de musique, parce que ça fait longtemps qu'on vous cause et on doit vous saouler. José a dû prévoir quelque chose, peut-être, sans doute, il fait vous allez avoir de la musique et je vous dirai ce que c'était après. Donc à tout de suite.
Whoa! nation of all
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui poursuit pour sa deuxième partie. Vous venez d'entendre un morceau très très bizarre que José a sélectionné, à mon avis, en tirant un petit peu au sort dans sa pile de CD. Le groupe se nomme Fat Worm of Error, donc c'est le ver gras de l'erreur, si je devais traduire ça comme ça. Et le titre, c'est... pregnant babies, pregnant. Donc bébé enceinte, enceinte. Enfin, je suis enceinte d'un bébé enceinte. Enfin, je sais pas trop. C'est intraduisible. Et le titre du morceau, c'était Laissez faire. Here is for the birds. Donc laissez faire, c'est pour les oiseaux. Enfin bon, peut-être. Voilà. Alors après cet intermède musical étrange, nous allons poursuivre avec un livre non moins étrange, non pas étrange en fait, un bouquin de Franck Poupaud, donc qui édité aux éditions Raison d'agir, Les mésaventures de la critique. Et tout à l'heure, juste avant le morceau, on vous parlait de justement de peut-être des du problème posé par l'impact politique des communautés alternatives qui en elles-mêmes ne sont pas forcément critiquables, mais dont on pourrait s'interroger effectivement sur leur impact politique et sur ce qu'elles promettent d'une certaine manière. Alors Jean-Mathias, tu voulais passer à la deuxième partie ou tu voulais continuer un peu sur
les choses? Non, juste dire un mot là-dessus. En fait, c'est un des thèmes, hein, c'est un des chapitres du livre de Franck Poupaud sur les mésaventures de la critique. Il nous intéresse quand même un petit peu parce que beaucoup de ces mouvements qui sont un peu sur la frange radicale, qui ont été dans la frange radicale du mouvement altermondialiste là, ces 15 dernières années, se réclament pour beaucoup hein, de l'anarchisme. Hein, c'est le cas notamment de John Jordan là, qui se paye, hein, qui est donc un des animateurs du mouvement Reclaim the Street anglais au tournant des années 2000, et puis qui a ensuite été aussi un des instigateurs de la Brigade des Clowns, des activistes pour une nouvelle forme d'activisme, de militantisme, etc. Donc c'est pas des gens qui sont très loin de nous, ça. Et donc c'est d'autant plus intéressant, je trouve, de regarder les critiques que Poupaud leur adresse et l'aveuglement dont ils peuvent faire preuve, hein, lorsqu'il s'agit effectivement des conditions de possibilité du militantisme qu'ils mettent en avant, et puis aussi des conditions de l'élargissement de ce type de militantisme. Alors je résiste pas, juste avant de passer à un autre thème du bouquin, à vous lire un passage de livre consacré à un type un peu méchant, il faut le dire, de Poupaud, consacré à ces textes de Jordan et de Isabelle Frémaux là, dans Les Sentiers de l'Utopie. Donc c'est pas, je vous trouve ça page 50 où il écrit, donc pour ne pas réduire ces communautés alternatives à des sortes de sites de vacances vertes où l'on joue de la guitare près du feu en chantant tous ensemble un doux répertoire folk contestataire, quoiqu'il s'agirait plutôt désormais d'écouter de la musique électronique expérimentale, il faut quand même se poser la question de savoir qui peut véritablement adopter ce mode de vie, notamment d'un point de vue économique, quand bien même la communauté reverserait, comme dans l'East Wind Community du Missouri, les bénéfices du troc local réalisé avec les productions artisanales de ses membres en échange de leur participation aux tâches collectives. Voilà. Et donc vous avez comme ça toute une série de petites questions posées de manière assez perfide. Même chose sur la commune libre des Cévennes à la Vieille Valette. Hein. Donc je cite toujours l'aspect. Alors ça, c'est, il cite Jordan, l'aspect résolument post-industriel et bricolé, les formes éclatées, les couleurs outrancières de la sous-culture urbaine se mêlent de façon surprenante avec cette vallée isolée et luxuriante. Le poulailler de bois s'est vu baptisé commissariat à la peinture blanche. Le vieux 4x4 brinque-ballant du collectif a été peinturluré de rayures noires et roses. Commentaire de Popo, n'en jetez plus. Pendant ce temps-là, des salariés licenciés luttent dans leur comité de grève aux quatre coins de l'Europe pour sauver leurs emplois. Trois petits points. Voilà. Donc vous avez, alors, c'est pas complètement de bonne foi, effectivement, comme critique, mais c'est pas complètement à côté non plus, me semble-t-il.
Donc, oui, c'est vrai que les grèves de Moulinex à côté, ça fait moins chic, quoi.
Ah, c'est moins chic.
Parce que les mecs qui font moins... grève, ils le font aussi en partie pour payer leur pavillon de merde.
Exactement. Leur crédit pour leur automobile qui pollue.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'ils sont moins. Et puis pour leur acheter leur vin Carrefour, quoi.
Voilà.
Et pas leur vin autoproduit ou des choses comme ça. C'est vrai qu'ils sont moins classe, les mecs.
C'est ça. Donc bon, il y a ce côté-là. Bon, alors voilà, sur l'élitisme, c'est un peu facile, mais finalement, on s'en lasse pas et c'est salutaire. Alors, le point de ces de critiques, il porte finalement sur la difficulté à produire quelque chose qui est une espèce de mirage un peu du côté de ce type de gauche radicale-là, qui serait une espèce de politique. Communautaire au fond. Et alors, ce qui est intéressant dans son livre, et c'est un lien qu'on trouve pas souvent, parce qu'il faut des connaissances, voilà, que Poupo a et que peu ont. Le lien qu'il fait, c'est le lien entre ce type de projet qui insiste justement sur, voilà, une politique communautaire locale, voilà, de rupture alternative, etc., et ce qu'on peut trouver dans l'expérience bolivienne autour du gouvernement de Morales, qui finalement, hein, essaye de mettre en place une politique communautaire à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un État tout entier, hein, à savoir l'État bolivien, avec le projet d'État plurinational qui est développé par Morales depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis décembre 2005. Alors, c'est sans doute la partie qui est la plus intéressante et la plus convaincante du bouquin, et aussi la plus neuve, à mon avis, parce que donc c'est tout un chapitre qui est développé par Popo là-dessus. Il a passé plusieurs années en Bolivie, il a assisté effectivement de près à un certain nombre de mouvements sociaux consécutifs à l'arrivée de Morales au pouvoir, hein, et donc c'est des questions qu'il connaît très bien. Et ce qu'il essaie de montrer, c'est comment on a, avec Morales finalement, et avec la Bolivie de Morales, une espèce de mise en application de certains projets développés dans les théories post-coloniales, hein, et dans la gauche radicale, du côté justement des utopies communautaires, hein, qui ont germé, qui se sont développées et qui ont mûri dans le mouvement altermondialiste. Et au fond, on a tout ça en Bolivie, hein, à grande échelle, avec donc ce qui a fait l'intérêt et la portée effectivement émancipatrice de ces projets-là, mais aussi très rapidement leurs limites et ce qu'ils n'hésitent pas à qualifier comme des formes d'impasse politique pure et simple. Hein. Mais ça, je trouve ça très intéressant de voir effectivement la Bolivie de Morales comme une espèce de laboratoire où on met en place et où on met en application une politique postcoloniale et communautaire. Et c'est effectivement deux thèmes très importants finalement, et un peu souterrains, pas toujours thématisés en tant que tels, hein, du côté de la gauche radicale, libertoïde, et j'en passe, hein. Voilà, le sens d'une communauté, voilà, primitive, on a ça depuis très longtemps dans la tradition anarchiste, hein, c'est l'idée de la tradition des groupes affinitaires, etc., hein, essayer de penser le lien politique à partir de ça, et de penser des communautés politiques à partir de ça, une espèce de démocratie immédiate, radicale, directe, qui reposerait justement sur des formes de communautés un peu, voilà, utopique, extrêmement exigeante. Il y a ces exigences-là. L'aspect postcolonial, c'est plus récent, hein, c'est des, bon, ça vient effectivement de tout un travail de déconstruction, voilà, du discours colonial, de la conception de l'histoire, du progrès, voilà, d'une vision de l'histoire un peu du monde très eurocentré, etc. Donc là, il y a beaucoup de travaux très intéressants souvent là-dessus, et puis aussi des trucs un petit peu moins intéressants. Eh bien là, on a en Bolivie un laboratoire où tout ça est mis en pratique. et mis en pratique, ce qui est pas sans poser un certain nombre de contradictions. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc vraiment, je vous invite à lire le livre, parce qu'il rappelle, bon, d'une part, un peu la chronologie, un peu de l'arrivée de Morales au pouvoir, c'est-à-dire la manière dont Morales, finalement, a réussi de manière assez pragmatique, assez opportuniste et assez fine, politiquement, pour arriver au pouvoir, à combiner à la fois un mouvement social ouvrier assez traditionnel, c'est-à-dire des syndicats ouvriers notamment, des revendications qui portaient sur la déprivatisation de la plupart des services publics, une nationalisation des ressources naturelles et en particulier de l'eau, hein, qui est une question absolument centrale. Il s'est appuyé également sur des mouvements d'inspiration beaucoup plus paysanne, avec un projet de réforme agraire radicale. Et il s'est appuyé aussi sur une composante extrêmement identitaire et indigéniste, hein, c'est-à-dire concrètement sur des revendications portées par les communautés indiennes autochtones de Bolivie, qui ne sont pas la totalité de la population bolivienne.
Mais qui représente 60%, et donc c'est pas une minorité.
C'est ni une minorité, ni une majorité écrasante. Hein. Et donc c'est une situation qui est très particulière, effectivement. Mais il a essayé, donc Morales, il explique de manière très intéressante, je trouve, comment Morales a réussi à combiner finalement ces deux types d'aspirations en faisant comme s'il n'y avait pas de problème. C'est ça que je trouve très fin, et c'est qu'effectivement ce qui fait la séduction de l'accession de Morales au pouvoir, et je pense pas me tromper en disant ça, ce qui fait la séduction de Morales, y compris ailleurs, par exemple chez nous, hein, par exemple en France, par exemple auprès de gens comme Mélenchon, qui se fout des Indiens comme de sa première paire de chaussettes, vraisemblablement, mais qui doit trouver ça intéressant, et peut-être même sincèrement, s'il n'est pas que opportuniste, ce qui fait la séduction de quelqu'un comme Morales auprès de Beauvais, etc., qui lui est plutôt sensible à la réforme agraire, etc. Bon. Et aussi à la dimension environnementale, hein. Il y a une dimension écologiste aussi, hein, dans les revendications indiennes. Mais c'est une écologie spéciale, c'est-à-dire que c'est une écologie, effectivement, qui prône finalement une sorte de retour, hein, alors c'est ce qu'il explique très bien, à une forme d'artisanat familial indigène en quelque sorte.
Ils vont se faire bouffer par les Chinois, ceux-là, ils vont même pas comprendre ce qui va leur arriver.
Bah, écoute, pour l'instant, ça a pas l'air d'être trop le cas, parce qu'il faut voir effectivement s'ils sont vraiment sur des productions concurrentielles avec les Chinois, parce qu'il a pas l'air d'être forcément évident.
Non, sans doute pas, je disais ça par méchanceté.
Mais cette espèce de combinaison là où vous allez avoir de l'Indien sympa, spontanément rétif au capitalisme industriel, hein, parce que là on est même pas au capitalisme financier, on est sur la phase d'avant là. Ouais. Donc spontanément respectueux de son environnement, spontanément hostile à la croissance économique, etc. Plus effectivement à côté,
spontanément hostile à l'avortement, spontanément hostile aux homosexuels,
j'allais y venir évidemment,
spontanément hostile
bien sûr.
Libération des femmes, spontanément hostile à tout un tas de trucs comme
ça aussi. Et voilà, et comment justement, mais ça c'est ce qu'il dit très bien,
oui,
hein,
oui,
il dit ça très très bien,
c'est pas ça que j'aime bien chez Poupeau là-dessus,
mais ça évidemment c'est pas ce qui fait partie de la séduction de la Bolivie aujourd'hui, hein, parce que ça on n'en parle pas, bien entendu, mais le côté séduisant, voilà, l'Indien sympa dont on parlait sur la face A, on va dire, donc cette face A qu'on va combiner avec les mouvements ouvriers traditionnels, les syndicats, nationalisation, mise en place d'un État, un État arbitre, etc. Et voilà, la combinaison de ça, effectivement, alors ça, c'est banco, ça fait péter la banque auprès de tous ceux qui cherchent une espèce d'État-providence qui serait d'une certaine manière respectueux des identités et qui aurait à la fois réussi à régler les deux problèmes, la question sociale et aussi la question identitaire qui taraude, comme chacun sait, toutes les sociétés en proie, confrontées à la mondialisation. Donc là, on a un truc, on a des identités sympas, des Indiens sympas, et puis on a un type de gauche avec un bon vieil État-providence à l'ancienne, où on nationalise, où on tape du poing sur la table et où on écoute les syndicats. Oui, sauf que, alors, d'une certaine manière, c'est comme ça que Morales arrive au pouvoir.
C'est une espèce de Napoléon qui aurait respecté les Bretons, quoi.
C'est méchant de dire ça. parce que c'est pas ça non plus. Parce que c'est ni Napoléon ni les Bretons. En fait, c'est plus.
Je sais.
C'est nettement plus contemporain que ça. Ouais. Et du coup, c'est aussi effectivement, on est nettement plus exposé à ce genre de choses. Et l'aspect intéressant, c'est qu'effectivement derrière, il y a aussi l'espèce d'anti-étatisme un peu spontané qu'on peut trouver du côté de la gauche radicale. mais y compris chez nous, hein, ne nous en cacherons pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même une question qui a du sens pour nous. Et alors là, on a quelque chose, on a une espèce de dépassement par la gauche, finalement, de l'État, c'est-à-dire avec ce projet d'État plurinational. Ce qui explique très bien, c'est qu'en fait, du point de vue, alors, du point de vue de la question de l'identité indienne et du point de vue de l'autonomie indienne en Bolivie, finalement, trois grandes étapes. Il y a les années si on schématise, hein. Dans les années 70, il y a un mouvement indigéniste, donc, qui met en avant, voilà, la question de l'identité indienne sur une base qui est celle de la critique de la colonisation, en train d'expliquer que voilà, on a une culture autochtone qui est voilà dominée par la colonisation depuis toujours. Dans un deuxième temps, on est là entre les années 80, la décennie 90-2000, ce qui se met en place pour régler ça entre guillemets par des gouvernements de droite en Bolivie. C'est une
voire
forme
des dictatures militaires.
Voire des dictatures militaires, c'est une forme de multiculturalisme libéral, hein, c'est ça qui est
avec des réformes agraires déjà.
Avec déjà un début de réforme agraire,
puisque les militaires s'appuyaient sur la paysannerie.
Mais là ce qui compte c'est avant tout de trouver un discours sur les identités qui permettent surtout de faire du business et puis voilà de satisfaire d'attirer des investissements
une
voilà,
clientèle aussi d'entretien d'une clientèle aussi.
Tout à fait. Et donc dans un troisième temps, on a voilà au cours des années 90 tout un mouvement, hein, une série de luttes pour la déprivatisation des services publics et puis la montée en force petit à petit voilà autour de Morales du projet d'un État plurinational, ce qui est une troisième étape et qui a des traductions voilà constitutionnelles et juridiques très précises, c'est-à-dire que ce qui est mis en place par Morales au bout de trois ans de mandat, c'est en fait une autonomie juridique très large des communautés indiennes, ce qu'on appellerait les régions, mais bon, je sais pas si ça recoupe pas complètement. Et avec, nous dit Poupeau, donc une espèce de voilà de justification derrière, qui est celle d'une espèce de bon sens spontané autochtone et de fidélité à des traditions forcément démocratiques, forcément égalitaires, forcément anticapitalistes de la part des communautés indiennes locales.
Mais ce que dit Poupeau là-dessus est assez violent et assez juste, c'est que c'est une espèce de décalque positif du mythe du bon sauvage.
Bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire qui consiste simplement à inverser les catégories coloniales en fait.
Oui.
Hein, sans du tout les problématiser, sans évidemment prendre en compte la question des métissages qui est fondamentale dans ce genre de pays et comme ailleurs d'ailleurs,
oui, du mélange des cultures
bien entendu
qui est monumental, ce qui est Poupeau dit en fait on sait pas, c'est que c'est très difficile de distinguer ce qui est pré-Cortés et ce qui
évidemment.
Est post-Cortés parce
évidemment.
Que ben, tout a été perdu, plus ou moins détruit, mélangé. Enfin bon, c'est...
Est-ce qu'il revient ouais. d'après lui aussi, du point de vue institutionnel cette fois-ci. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, à part la Bolivie, je ne vois pas de point de comparaison aujourd'hui. Ouais. Pour penser justement l'application voilà, de ce type de fantasme finalement voilà qui traverse un peu voilà la gauche radicale de part en part on peut dire, hein. Et ce qu'il dit derrière ça, c'est que en fait ce qui est mis en place là, c'est une forme de dispersion et de cloisonnement finalement de la souveraineté, des souverainetés communautaires cloisonnées, séparées les unes des autres, mais qui remettent absolument pas en compte finalement, mais qui remettent absolument pas en question la souveraineté de l'État, hein, qui reste en quelque sorte l'instance de légitimation, l'instance qui va conférer à ces communautés le droit de rendre la justice, etc. Ouais.
Alors, et le capitalisme non plus n'est pas remis en
bien
cause
entendu,
du tout.
Bon, le capitalisme et l'État. Alors, ça c'est peut-être plus compliqué parce qu'en pratique, ce qu'il explique, c'est que finalement, ce qui est mis en avant, ce sont finalement des formes de capitalisme pré-industriel. Alors, le capitalisme en tant que tel, bien sûr, n'est pas remis en question, mais ce qui est mis en place et le soutien de cette politique post-coloniale et indigène, si on peut dire ça comme ça, c'est finalement ce qu'il explique, hein, c'est une forme de petite bourgeoisie indienne, hein, c'est-à-dire une forme de petit artisanat familial avec derrière effectivement toute la phase B dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi refus de l'avortement, refus de l'homosexualité, une forme de domination patriarcale
travail des enfants,
absence de droit du travail, etc. etc. Hein. Et donc et alors évidemment ça c'est ce qui explique, il est fort probable que les points de tension risquent d'apparaître et que des déceptions massives risquent de se profiler aussi lorsqu'effectivement ça sera mis en contraste avec l'autre pilier du régime, celui qui est aussi en partie porté au pouvoir, à savoir le mouvement syndical et ouvrier plus traditionnel, on va dire.
Là, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder la troisième partie de notre émission qui sera consacrée plus à une critique de la sociologie, particulièrement de la sociologie française. Voilà. Donc, pause musicale.
Let's go.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir, donc, qui se poursuit sur le livre de Franck Poupeau, Les Mésaventures de la Critique. Vous venez d'entendre un morceau de Brutal Juice, donc je pense que c'est du hardcore bien basique.
On peut le dire, hein, mais je
dois avoir quelques disques d'eux, hein, évidemment. Et voilà, donc, et là, on va vous parler de la critique, parce que Franck Poupeau critique tout, hein, il n'hésite pas, il critique même la sociologie, soyons fous. Donc, alors Jean-Mathias.
Si on continue à suivre un petit peu
le fil.
Oui, enfin, si on essaie de, c'est un livre qui est difficile à suivre parce que le livre est un recueil d'articles, hein, en fait, hein, donc il y a des choses sur l'altermondialisme, on en a parlé, des choses sur l'altermondialisme, y compris dans ces développements les plus radicaux et communautaristes, on va dire, du point de vue des expériences de vie un petit peu alternatives. Donc il y a des articles là-dessus. On vient d'en parler, des articles sur l'indianisme et les gauches du gouvernement en Amérique latine, en gros, de manière plus claire, sur l'expérience de Morales en Bolivie. Et puis, il y a des choses qui sont aussi plus proches du contexte franco-français. Il y a un chapitre sur la sociologie française à l'épreuve des voitures en feu, donc à propos de la couverture par les sociologues médiatiques des émeutes urbaines de novembre 2005 en France. Et puis un dernier chapitre sur la critique de gauche qui rejoint la sociologie d'État, selon les termes de Poupeau, qu'il emprunte lui-même à Bourdieu, c'est-à-dire sur finalement la manière dont une philosophie de l'émancipation radicalement à gauche, à tendance libertaire, comme par exemple celle développée chez Rancière, mais pas seulement, finalement va retrouver des poncifs qui sont ceux de la sociologie médiatique et qui va retrouver exactement le même type d'inefficacité politique, hein, d'après Poupeau. Alors, peut-être pour terminer donc du coup cette émission, dire deux mots sur ces aspects-là. Rapidement sur les émeutes les émeutes urbaines de 2005, parce que, alors là pour le coup c'est plus une critique que Poupeau fait de la sociologie. Et c'est, on est plus dans la polémique là, hein. On est plus dans la polémique, c'est-à-dire que il reprend finalement des analyses qui sont celles de Bourdieu et de l'incapacité finalement des sociologues à utiliser de manière efficace les médias, quoi qu'ils en pensent. Les médias ne sont pas faits pour développer des discours scientifiques. Et certainement pas des discours qui viendraient des sciences sociales. C'est-à-dire que
critique fondée.
Exactement.
Des sciences qui viendraient des sciences sociales.
Les médias sont faits pour faire du spectacle médiatique, c'est-à-dire, et les médias sont faits pour les fast thinkers, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à ajouter de manière assez rapide, parfois brillante, sur des formats courts, de manière agressive, avec plus ou moins de répartie et avec un sens de la formule qui s'accommode pas du tout, en fait, avec la recherche scientifique, ou en tout cas formale. Et le problème, c'est que beaucoup de sociologues ne comprennent pas ça, soit ne veulent pas le comprendre, parce que ils aiment bien passer à la télé, quoi, voilà, pour dire les choses claires. Et en 2005, lorsqu'il y a les émeutes dans les banlieues françaises, pas seulement des banlieues, mais largement dans les banlieues, eh bien, la plupart des sociologues qui vont être convoqués vont finalement arriver sur les plateaux télé, vont être on va les convoquer en quelque sorte pour qu'ils fournissent des explications qui sont bien en peine de donner, puisque par définition ils n'ont pas fait de travail d'enquête sociologique sur ce qui vient de se passer.
Voilà. Une sociologie qui serait particulièrement longue.
Alors bon, du coup Poupeau donne un certain nombre d'éléments pistes, oui, sur ce qu'il faudrait. Donc qu'est-ce qu'il dit Poupeau, c'est que simplement la plupart des sociologues, quand ils débarquent sur un plateau comme ça à chaud, ils ne peuvent pas parler en sociologue. Ils sont effectivement invités en tant que sociologue, mais par définition, ils ne peuvent pas parler en sociologue, puisque le travail n'a pas été fait. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec leur petite tête, avec leurs petits préjugés, ou avec leur petite vision de la chose, ou leurs petites opinions. Pas forcément débiles, d'ailleurs. Enfin, il dit d'ailleurs que, pour la plupart, les raisons qui sont invoquées par la sociologie en 2005, c'est pas forcément des trucs délirants, sécuritaires, sur la crise de l'autorité paternelle, ou...
C'est pas toujours de Sarkozy, quoi.
Ouais, bon, on a entendu aussi du délirant. Hein. Oui. Faut pas oublier, faut pas oublier ce genre de choses. On rappelle d'analyse, développée avec beaucoup de sang-froid par je sais plus quel abruti qui expliquait qu'en fait, dans les familles issues d'Afrique noire, en fait, il n'y avait pas d'autorité, parents paternels particuliers. Donc, ça expliquait que rien, parce qu'en fait, il n'y avait pas plus de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs issus d'Afrique noire dans les gens qui avaient été arrêtés, mais ça expliquait que le type qui était en train de parler avait juste peur des noirs, quoi. Voilà, en gros, c'est ça que ça expliquait, quoi. Et donc le type, on a eu ça quand même, on a eu ça entre autres, hein, l'attaque des bibliothèques, mon Dieu, rappelez-vous ça, bref.
Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire.
De notre histoire, etc. Finkielkraut en larmes, etc. Bref.
Pas donc, de genoux sur sombre.
Voilà, enfin, Finkielkraut qui, au moins, il a ce mérite, c'est qu'il il se présente pas comme sociologue.
Voilà, il est clairement réactionnaire.
Voilà. Bon. Mais du point de vue de la sociologie, que dit Poupeau? Il dit, finalement, les sociologues, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent dire simplement des banalités. C'est-à-dire qu'effectivement, la pauvreté et puis une certaine forme de racisme d'État peuvent contribuer, à des explosions de violence comme celle auxquelles on assiste en 2005. Oui, sauf qu'en réalité, il faut une analyse évidemment beaucoup plus fine que ça, parce que ça pète pas de la même manière dans tous les quartiers. Il y a plein de quartiers où ça aurait dû péter.
Où
ça n'a pas pété. Il y a d'autres quartiers où ça a pété et où finalement il n'y avait pas plus de racisme d'État ou pas plus de pauvreté qu'ailleurs, peut-être même moins que dans d'autres quartiers où ça n'a pas pété, etc. Donc évidemment le travail de sociologie il commencerait là, c'est-à-dire expliquer la part de facteurs économiques, de facteurs sociaux, le taux d'emploi, le taux d'imposition, la présence des institutions, le tissu associatif, etc.
L'action de la police, les modalités de l'action de la police, etc. Voilà. Etc.
Et tout ce travail-là, bien évidemment, c'est un travail de fourmi. Qui n'est pas forcément très sexy, qui ne va pas forcément arriver d'ailleurs à des conclusions très spectaculaires, mais qui doit être fait pour que la personne qui est en train de causer sur le plateau télé puisse parler en tant que sociologue. Or, ce n'est jamais le cas, par définition. Et donc, il dit que, par contre, ce qu'il faut s'interroger, c'est sur la fonction que joue, effectivement, le sociologue lorsqu'il est convoqué sur un plateau télé et qu'il accepte d'y venir. Il ne va pas parler en sociologue pour de vrai. On comprend très bien pourquoi. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et c'est ça finalement le problème, c'est-à-dire qu'effectivement les sociologues qui acceptent effectivement de se pointer en maillot de bain théorique sur des plateaux télé contribuent finalement à propager une espèce de sociologie d'État, ce qu'il appelle une sociologie d'État, c'est-à-dire un ensemble de préjugés qui sont parfaitement inefficaces politiquement. Ou très efficace pour finalement ne rien faire.
Très efficace dans un sens qui est absolument pas critique.
Mais voilà, c'est ça. Mais sûrement pas pour mener, si tu veux, une critique de gauche radicale, si on utilise les grands mots, que la plupart ont envie de mener, pour certains en tout cas, sincèrement envie de mener, qui croient même pouvoir peut-être mener en tenant ce genre type de propos dans les médias, etc. Donc il dit que là, il y a un vrai travail là-dessus, qui consiste d'abord, lorsqu'un sociologue est convoqué comme ça à chaud sur un événement, l'honnêteté intellectuelle et la rigueur scientifique consisterait à dire d'abord, je ne parle pas en sociologue, je m'exprime en mon nom propre, point, barre. Voilà. Donc il y a ça, et ensuite, effectivement, ce qu'il faudrait faire le mieux, ça serait de faire le boulot pour de vrai. Bon, et alors, ce qui met derrière ça, donc c'est. Après, il relie ça finalement à une forme de position. Qui est partagé par des sociologues, mais pas seulement, aussi par un certain nombre de philosophes et de théoriciens. Il cite Rancière notamment, parce que c'est c'était une des têtes de turc de Bourdieu, et réciproquement, Rancière est quelqu'un qui n'est pas un con, qui est un philosophe, mais qui, effectivement, a construit une bonne partie de ses convictions philosophiques sur une critique, finalement, de la sociologie et de la connaissance sociologique. C'est-à-dire de l'idée que on pourrait avoir une connaissance de la domination que les dominés n'ont pas. Et au fond, c'est ça, finalement, d'après Poupeau, la clé du problème, et qui fait effectivement le lien entre les différentes thématiques qu'il aborde. Est-ce qu'il a raison ou pas? On serait tenté de dire que sur le diagnostic, il n'a pas complètement tort. Voilà. Alors après, est-ce qu'effectivement, il faut aller chercher uniquement du côté de la sociologie bourdieusienne, les pistes et les connaissances auxquelles il appelle, etc. Ça, c'est une autre question. Mais au fond, ce que Poupeau nous dit, c'est que toutes ces critiques de gauche radicale, elles manquent quelque chose de fondamental, c'est-à-dire l'idée qu'il faut quand même se mettre d'abord au boulot, pour essayer de comprendre pourquoi, effectivement, la domination, ça marche. Voilà. Pourquoi ça marche socialement? Quels sont les mécanismes qui font que ça marche dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine social et dans le domaine politique? Et que si on ne fait pas ce travail-là, et que si même, ce que la plupart des gens font, si même on fait comme si ce travail-là par définition ne pouvait pas avoir lieu, c'est-à-dire par définition il ne pouvait pas y avoir de connaissance de la domination indépendante de ce que les dominés savent, hein. Effectivement, si on est là-dessus, il y a de grandes chances qu'on continue à se désespérer encore pendant pas mal d'années, hein, sur l'inefficacité des mouvements sociaux en France ou ailleurs.
Voilà, donc voilà, le jeudi noir est terminé. Nous allons vous passer nous allons diffuser c'est Entre Chien et Loup, l'émission suivante. C'est une rediffusion de la première émission, celle du 19 mai 2012, qui s'intitule Roll Over Beethoven. Donc voilà, vous allez rouler sur Beethoven en compagnie de Chien et Loup. Dans l'heure suivante, il y aura peut-être quelques ratés en tout début parce que c'est un rip de l'émission et donc il y a peut-être un bout de jeudi noir juste avant. Voilà, c'est pas gagné, mais enfin un bout de truc avant. Voilà, donc nous vous parlions de Franck Poupeau, Les Mésaventures de la Critique, aux éditions Raison d'Agir. Voilà, et ça a permis à Jean Mathias de progresser donc dans la social-démocratie. Voilà, on se reverra plus tard, et Jean Mathias se vengera.